Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de France Inter faite à la main et pour les oreilles. Bonjour. Alors cette semaine, c'est Clé de l'orchestre. Donc nous allons retrouver dans quelques minutes l'Orchestre Philharmonique de Radio France dans l'auditorium. Pour continuer notre voyage Stravinsky, continuer notre sacre du printemps commencé la semaine dernière. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons exploré, nous avons entendu des exemples, nous avons découvert les rythmes, les sonorités, les harmonies inédites de la première partie du sacre du printemps. Cette semaine, nous nous intéressons à la deuxième partie de ce chef-d'œuvre qui a révolutionné l'histoire de la musique. Nous allons donc retrouver le public de l'auditorium, les musiciens de l'Orchestre Philharmonique, le chef d'orchestre Mikko Franck. Mais avant d'en venir aux explications, à la parole et à cette seconde partie du Sacre du Printemps, j'ai pensé que ça ne serait pas mal d'écouter la fin de la première partie, ce que nous avons écouté la semaine dernière. Oui, de façon à se remettre dans le rythme, dans l'énergie, dans la couleur si extraordinaire de cette pièce. Pourquoi ne pas commencer par exemple aux rondes printanières? Tenez, comme ça on pourrait enchaîner les rondes printanières, les jeux des cités rivales, le cortège du sage et enfin la danse de la terre, qui est peut-être la musique la plus rythmique, la plus incroyable que Stravinsky n'ait jamais inventée. Donc nous réécoutons ces 8 minutes de musique et après nous entrerons dans notre nouveau voyage au cœur de l'orchestre, dans la seconde partie du Sacre du Printemps de Stravinsky. Et maintenant, place à l'orchestre, musique. Quelle sauvagerie, quelle puissance, quelle vie rythmique dans cette première partie du Sacre du Printemps. Donc nous écoutions l'Adoration de la Terre, la première partie du Sacre du Printemps par l'Orchestre Philharmonique de Radio France, dirigé par Mikko Franck. Alors évidemment, à de nombreux moments, et notamment dans la toute fin de ce que nous venons d'entendre, vous avez certainement été saisi par la puissance, la violence même, la vie rythmique, l'énergie, la sauvagerie de cette musique avec ses syncopes, ses accents, ses contretemps, ses superpositions polyrythmiques. Et il faut quand même imaginer la réaction du public, donc ce 29 mai 1913 au Théâtre des Champs-Élysées, qui écoute ça pour la première fois. Et assez rapidement, il faut bien le dire, il y a eu dans la salle, répondant au tohu-bohu de l'orchestre, un véritable charivari. C'est le fameux scandale du Sacre du Printemps. Personne n'était encore habitué à une telle puissance sonore, à un tel déchaînement rythmique. Il y a même un critique qui a dit « Ce n'est pas le Sacre du Printemps, c'est le massacre du tympan ». Il y en a d'autres qui ont mieux compris de quoi il s'agissait, qui ont décrit plus objectivement la musique. Par exemple, le critique Pierre Lalot, le fils du célèbre compositeur Édouard Lalot, qui parle de rythmes incisifs, rudes et puissants, de rythmes insistants qui s'exaltent par leur répétition même et qui s'enfoncent comme un grand coup de marteau. Et Cocteau, Jean Cocteau, l'écrivain, évoque quant à lui une musique à grands coups de battoir répandant une terreur nègre. Alors donc dans la salle, charivari entre les pour et les contre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cette avant-garde, qui sont venus pour défendre le Sacre du Printemps et qui finalement font presque plus de bruit que ceux qui sont contre. Mais par-dessus tout, vraisemblablement, le scandale est dû à la chorégraphie et au costume, parce que Nijinsky fait se mouvoir ses danseurs avec des gestes saccadés, étranges, primitifs. Ils sont vêtus d'une manière un peu provocante et en fait, dès la deuxième représentation, tout rentre dans l'ordre. Et l'année d'après, en avril 14, alors que l'œuvre est reprise au Casino de Paris, c'est le triomphe et Stravinsky est porté à bout de bras par ses admirateurs jusqu'à la Trinité. D'ailleurs, on peut se demander si Diaghilev, le patron des ballets russes, n'a pas un peu fait exprès de provoquer un scandale, parce que forcément, ça faisait encore plus parler des ballets russes. C'est lui qui a poussé Nijinsky à accentuer encore le caractère primitif et provocant de sa chorégraphie. Et c'est aussi lui qui pousse Stravinsky à agrandir l'orchestre pour obtenir une telle puissance sonore, puisqu'ils sont plus de 100 musiciens du jamais vu, une soixantaine de cordes, une quarantaine de vents, sans oublier, bien sûr, tous les percussionnistes. Alors Diaghilev, c'est vraiment un personnage très important dans l'histoire du XXe siècle, un personnage controversé. Pour Picasso, il est la figure décisive de l'histoire culturelle du XXe siècle et le symbole de l'âme slave. Mais pour Lénine, il est un exemple de la bourgeoisie décadente. En 1907, Diaghilev a créé une compagnie de danseurs, les ballets russes, composés des meilleurs éléments du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Il va se produire avec sa troupe des ballets russes en Europe et sur le continent américain, mais jamais en Russie. C'est la Russie pour les Européens et les Américains. Son idée est de créer des spectacles d'art total. Il fait donc appel aux plus grands compositeurs de l'époque, Debussy, Ravel, Satie, Poulenc, Stravinsky, Prokofiev. Du côté de la danse, aux plus grands chorégraphes en vue, Nijinsky, Massine, Balanchine. Et du côté des décors, il fait appel à Picasso, Matisse, Quirico, Miro, etc. Et toute sa vie, Stravinsky va se souvenir de cette période des ballets russes qui l'aura tellement marqué. Et il va continuer toute sa vie à écrire des musiques de ballet. Il en écrit une quinzaine en tout, c'est un record. Alors il y a L'Oiseau de Feu, Petrouchka, on en a déjà parlé, Le Sacre du Printemps, bien sûr, mais viendront bientôt Renard, Les Noces, Pulcinella, Apollon Musagète, Le Baiser de la Fée, Jeu de cartes ou Orphée. Mais maintenant, il faut en venir à la seconde partie du Sacre du Printemps. Alors après la force et l'énergie de la première partie, son évocation de la nature et ses danses frénétiques, je dirais que la seconde partie incarne plutôt le mystère, l'étonnement, les rituels de mort et la glorification des ancêtres. Je cite Stravinsky, « Sur la colline sacrée, les adolescentes mènent des jeux secrets, elles forment des cercles mystérieux qui désigneront l'élu du sacrifice. » Introduction et ronde mystérieuse des adolescentes, puisque c'est au cours de ces rondes qu'on va désigner l'élue, celle qui, à la toute fin du ballet, sera offerte en sacrifice. Et le début de cette seconde partie est étrange, lunaire. D'ailleurs, elle a été reprise, plagiée même par John Williams, dans son premier épisode de Star Wars en 1977, pour ceux qui ont de la mémoire. Vous vous souvenez, l'arrivée dans la planète des sables, hein, Tatooine, il y a pratiquement, enfin il a changé quelques notes, mais c'est pratiquement la même musique. Alors depuis, moi, chaque fois que j'entends le début de la seconde partie du Sacre du Printemps, j'ai assimilé les deux et j'entends une ambiance lunaire, une ambiance étrange, une ambiance de mystère. Est-ce que vous avez entendu là, à la fin du passage, il y a un thème qui vient d'émerger dans l'aigu de cette ambiance désertique. Il a été joué par violon et les violoncelles, et toujours sur quatre notes. La, sol, mi, ré. Et là, Stravinsky fait quelque chose que j'aime particulièrement. Il va construire toute sa musique sur ce seul thème, non pas en le développant, mais en le changeant de lumière, si je puis dire. Vous savez, si vous avez un objet chez vous que vous aimez bien et que vous le mettez au centre d'une pièce et que simplement vous l'éclairez différemment, plus de lumière, moins de lumière, en plaçant la lumière par-dessus l'objet, ou de manière rasante, ou sur les côtés, en mettant des lumières de couleur, rouge, bleu, plus chaude, plus froide, l'objet, même si c'est toujours le même objet, va changer d'aspect. Nous n'allons pas le ressentir de la même manière. C'est exactement ce que va faire Stravinsky au début de la seconde partie du Sacre du Printemps. Ce thème, construit sur quatre notes, il va par exemple le faire entendre d'une manière très élégante, très suave, par la flûte alto de Michel et le violon solo d'Hélène. Un peu plus loin, la mélodie est entendue aux trois corps, mais il y a dans l'aigu un accord d'ut majeur qui n'est pas dans la tonalité et qui donne là encore un caractère un peu étrange et lunaire. Si on peut avoir d'abord l'accord en do majeur, sol, do, mi, qui est joué par les trois flûtes, sur lequel se pose le thème des corps. Et maintenant, plus chaleureux, plus expressif, avec le groupe des altos. À la fin de cette partie, les changements de lumière s'accélèrent, toutes les deux mesures. Tenez, dans le passage qui suit, écoutez, il y aura le thème au corps, puis violon et bois, puis de nouveau les corps, et enfin l'alliage violoncelle et au bois. Nous en arrivons maintenant à la glorification de l'élu. C'est une danse sauvage et martiale, avec des élans soudains, des projections sonores discontinues. La sauvagerie reprend ses droits, comme si l'homme était de nouveau livré à ses pulsions. Et nous allons retrouver, bien sûr, nos Tolchok. Vous l'avez compris, Tolchok, le mot russe qu'adore Stravinsky, qui veut dire impulsion, secousse. Et là, vous allez en entendre pas mal, des Tolchok, dans le grave de l'orchestre, et puis ça revient tout le temps. Nous écoutons un passage, un extrait de la glorification de l'élu. Ce qui a marqué ce passage, c'est bien sûr les 11 Tolchok du début, particulièrement cruels et dissonants. Vous souvenez, dans la première partie, nous avions eu aussi un accord Tolchok. Mais il me semble que ce nouvel accord Tolchok est encore plus dissonant, puisqu'il superpose un premier accord dans le grave, déjà bien dissonant, composé de quartes superposées, non pas de tierces comme on a l'habitude plutôt dans la musique, et l'accord plus aigu, lui-même très dissonant, et dissonance sur dissonance, piment sur vinaigre. Et après, on l'a retrouvé dans l'extrait que vous venez d'entendre. Alors, ces façons de superposer deux éléments qui ne sont finalement pas de la même tonalité, c'est quelque chose qu'aime beaucoup faire Stravinsky. Et d'ailleurs, dans le numéro d'après, on en a un très bon exemple. Le numéro d'après, c'est l'évocation des ancêtres. Alors, pour évoquer les ancêtres, on a une magnifique fanfare dans l'aigu, des cuivres et des bois. Ça, c'est une tonalité, mais la basse de l'orchestre fait entendre un ré dièse qui n'est pas dans la même tonalité, donc on a à la fois le ré dièse de la basse et la fanfare par-dessus, ce qui donne à l'orchestre Nous en arrivons au numéro suivant, action rituelle des ancêtres. J'ai l'impression que dans le Sacre du printemps, il y a souvent une alternance entre des moments suspendus, étranges, mystérieux, et des moments d'énergie frénétique. Mais il y a aussi des mouvements intermédiaires qui forment des sortes de processions, de rituels. C'est exactement ce qui va se passer maintenant. Le rituel, la procession, est marqué par une sorte de balancement obstiné des percussions, timbales, grosses caisses, tambour de basque. Petit à petit, s'y mêlent des notes graves des cors, et sur cet ostinato lancinant entre le motif du cor anglais. La flûte grave répond. Un effet de transe presque hypnotique, et un petit peu plus loin va se superposer un nouveau motif de quatre notes, mais avec une sonorité étrange parce qu'il est joué par les trompettes en sourdine. Si vous pouvez nous faire entendre ce motif de quatre notes.
Mmh.
J'adore cette sonorité. Alors là, j'ai isolé les trois trompettes avec même une trompette grave. Donc c'est vraiment une sonorité très étrange. Et on va réécouter ce motif, mais avec l'accompagnement de l'orchestre, un ostinato marqué par une sorte de serpentin de Michel à la flûte alto. C'est maintenant le dernier numéro de la seconde partie, la danse sacrale, qui est une danse de sacrifice. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, ce dernier numéro, cette danse sacrale, eh bien, c'est la vision première dont est parti Stravinsky. Car c'est une simple vision qui a donné l'argument principal du Sacre du Printemps à Stravinsky. Je cite Stravinsky, « J'entrevis un jour, dans mon imagination, le spectacle d'un grand rite sacral païen. Les vieux sages, assis en cercle et observant la danse à la mort d'une jeune fille qu'ils sacrifient pour leur rendre propice le dieu du printemps. » Nous allons écouter un premier extrait de cette danse sacrale qui est en quelque sorte une lutte à mort entre les timbales et le reste de l'orchestre, sur des rythmes irréguliers et perpétuellement contrariés. Le triomphe de l'accent et de l'irrégularité. Timbales versus orchestre. Après, par contraste, la nuance devient très douce et s'installe une étrange pulsation des cordes totalement irrégulière qui me fait penser, vous savez, à ce qu'on appelle l'arythmie cardiaque. Tadam, 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 tadam. Uniquement ponctuée par des appels stridents et angoissants des cuivres. Et c'est maintenant la mise à mort. La jeune fille va être sacrifiée, mais vous le savez, sur scène, on ne meurt pas comme ça. Avant de mourir, si on est à l'opéra, on chante. S'il s'agit d'un ballet, on danse. C'est donc la danse sacrale, la danse à la mort, la danse de sacrifice. Et peut-être que ce qui me frappe le plus, c'est cette utilisation tellement extraordinaire Stravinsky de l'orchestre. On a l'impression, dans certains moments, qu'il transforme tout l'orchestre en une sorte d'orchestre de percussion. Parce que parfois, toutes les cordes sont utilisées uniquement pour faire un accord sec, répété, et même chose avec les cuivres et avec les bois. Nous écoutons maintenant la mise à mort spectaculaire de l'élu. Avant d'écouter en entier la seconde partie du Sacre du Printemps, le sacrifice, peut-être que nous pouvons nous redire ensemble ce qui fait de cette œuvre une musique tellement nouvelle, quelque chose qu'on n'a vraiment jamais entendu, quelque chose qui fait qu'il s'agit un acte de rupture à la fois avec les charmes de l'impressionnisme et avec l'expression romantique. Il y a, nous venons d'en parler, cette manière d'utiliser l'orchestre, tellement nouvelle, où des groupes entiers peuvent être utilisés comme s'il s'agissait d'un instrument de percussion. Il y a aussi la taille de l'orchestre. On n'a jamais plus écrit pour des orchestres aussi considérables, plus de 100 musiciens. Il y a cette manière de superposer différentes strates rythmiques, ce que j'ai appelé tout à l'heure polyrythmie, où de nombreux groupes ont chacun leur rythme, leur énergie. Il y a cette écriture en bloc sonore et cette émancipation de la dissonance. Il y a ces ostinatos menés parfois jusqu'à la transe. Il y a cette manière de pratiquer le développement rythmique avec déplacement d'accent, allongement ou raccourcissement des périodes. Il y a aussi, enfin, l'interversion de l'ordre des éléments, une alternance complète, à la fois déroutante et revigorante, me semble-t-il. D'une manière générale, on pourrait parler, avec le Sacre du printemps, de libération du rythme. Oui, on n'a plus jamais pensé la musique de la même manière après le Sacre, et avant que nous n'écoutions en entier cette deuxième partie, le sacrifice du Sacre du printemps, par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Miko Franck, je laisse une dernière fois la parole à Stravinsky, qui a déclaré un jour « Il me semble que j'ai pénétré le secret du rythme du printemps ».
Thank you.
Voilà, c'était la seconde partie du Sacre du Printemps, seconde partie intitulée Le Sacrifice par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Mico Franck. C'était donc les clés de l'orchestre. Clés de l'orchestre consacrée, vous l'avez compris, au Sacre du Printemps de Stravinsky. Alors je vous fais un petit générique avant de rendre l'antenne. Violon solo Hélène Collerette, basson solo Jean-François Duquesnois, délégué général Jean-Marc Bador, responsable du programme pédagogique Cécile Kaufmann-Nègre, assistant artistique Thibaut Perrine, musicien metteur en onde Rafik Kevorkian, prise de son Yves Baudry, assisté de Laure Jung-Lancré. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Digel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec la collaboration de Dorian Sègre. Chef opérateur du son, Gilles Gaillard. À la semaine prochaine.